Si le monde entier est un cactus et qu'il est impossible de s'asseoir, les cactus sont des plantes à fleurs étonnantes et tout à fait singulières. Elles sont robustes, ont la faculté de résister à des environnements très inhospitaliers. Et on trouve des cactus de toutes les formes, de toutes les tailles, les plus gros pouvant atteindre quand même 19 mètres de haut. Les cactus suscitent un engouement très important, si l'on en juge par le nombre de sites internet amateurs qui leur sont consacrés. Je reçois cet après-midi, justement, dans le dossier de la Tête au Carré, deux spécialistes de ces plantes grasses. Ils vont nous raconter quelles sont leurs caractéristiques, comment les entretenir, avec vos questions et vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Et puis, comme tous les jours, en fin d'émission, on retrouvera la campagne officielle pour la présidentielle. Stéphanie Texier réalise cette Tête au Carré qui a été préparée aujourd'hui par Pierre de Certaine.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le monde des cactus dans notre dossier. Pour en parler en studio avec moi, Fabrice Fenouillère du parc Galéa en Corse. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et en duplex de France Bleu Pays d'Auvergne, Yann Cochard, le créateur et webmaster du cactus francophone. Bonjour à vous, Yann Cochard.
Bonjour.
Fabrice Fenouillère, est-ce que les cactus ont toujours des épines?
Ça, c'est ça. C'est peut-être un faux ami intéressant sur lequel, effectivement, on peut un peu se pencher. On a l'image du cactus qui est dans le désert à côté de Lucky Luke, oui, où il fait très chaud avec ses épines, comme vous le dites, mais il y en a aussi en haut des arbres, dans les forêts humides brésiliennes, du Sri Lanka, de Madagascar, qui ont des feuilles et qui ont une tête totalement différente de ceux qu'on a l'habitude de voir.
Voilà, beaucoup de variétés. On va en découvrir quelques-unes ensemble. Yann Cochard, est-ce que les cactus, justement, résistent bien, surtout à la sécheresse et au climat très chaud?
Oui, tout à fait. Ils ont développé un nombre de stratégies pour y arriver. Et c'est pour ça que ce sont des plantes très différentes de celles qu'on peut voir d'habitude. Il y a aussi bien leur forme que leur mode de respiration. On pourra en parler un peu plus tout à l'heure.
Eh bien, on a beaucoup de choses à découvrir donc sur ces cactus ensemble dans un instant avec les questions des auditeurs et puis également ceux, pourquoi pas, des élèves du lycée Eugène Hénaff de Bagnolet.
Moi, je sais où en trouver des cactus.
Très jolie.
Et c'est une plante tellement mystérieuse. Elle n'a pas fini de dévoiler ses nombreux secrets.
Penche-toi encore un peu. Pas trop, pas trop.
Eh ben voilà, tu l'as ton déguisement de cactus, Joe.
Et voilà, Joe Cactus avec un épisode des Dalton pour parler de ses plantes avec ses épines, ses fleurs, ses formes, ses tailles très variées. Le monde des cactus pour aborder donc les particularités de ces plantes grasses qui font le bonheur visiblement des collectionneurs partout dans le monde. Dossier avec mes invités Fabrice Fenouillère et Yann Cochard. Fabrice Fenouillère, vous êtes le concepteur et directeur du parc Galéa, donc c'est en Corse, au sud de Bastia, et c'est un jardin de 9 hectares dans lequel se trouve justement une importante collection de cactus. Hein.
Oui, c'est un jardin qui fait 9 hectares effectivement. Alors on a à peu près 400 sujets. Ce qui je crois est intéressant, c'est que ce sont surtout des sujets grands, vieux, qui ont des formes très spectaculaires. On en parlera pour ceux qui sont cristés, fasciés, ceux qui prennent un petit peu comme ça des formes sculpturales.
Ils étaient là avant que le parc et le jardin n'existent ?
Non, on les a convoqués. Ah ouais. On les a convoqués quand on a travaillé les espaces paysagers et quand on a voulu autour des musées, hein, puisqu'on a toute une série d'espaces muséographiques qui présentent d'autres îles, hein, qui présentent la Corse dans sa dimension patrimoniale, qui l'ouvrent sur la Méditerranée, sur le monde, et le clin d'œil au monde qu'on voulait avoir sur notre île de Corse, bien c'était d'avoir ces cactus qui nous racontent un petit peu ces pays d'ailleurs et qu'on croise tous les matins et qu'on salue en allant travailler.
Et vous en avez beaucoup en Corse, des espèces endémiques ou pas?
Alors non, mais d'une manière générale, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Les cactus sont d'Amérique du Sud, hein, en termes d'endémisme. Il y en a un à Madagascar, c'est celui qui habite notamment au Haut-des-Arbres et quelques autres à côté de lui, un petit peu une exception. Donc on en a plutôt qui ont été importés. Et je pense au figuier de Barbarie.
Ouais.
Et pour le coup, dans nos paysages, il y en a beaucoup, mais il n'est pas présent naturellement.
C'est ça. Et il y en a même beaucoup, beaucoup en Corse. Hein.
Et oui, il est qualifié d'invasif.
C'est ça, ouais.
Ce qui est absolument fascinant, c'est qu'on va voir que par ailleurs, il est très, très important pour les autres cultures.
Ouais. Et ça pose des problèmes d'ailleurs,
cet
aspect invasif du cactus et donc de...
Oui, bien sûr.
Ces fruits.
Alors pas tant des fruits, hein. C'est plutôt la prolifération du figuier de Barbarie, hein, pour ceux qui connaissent, de l'Opuntia. Oui, ben, qui prend un petit peu le dessus sur la population naturelle méditerranéenne et endémique de Corse.
Ouais.
Et il y a des campagnes d'arrachage. Mais j'ai une vraie sympathie pour le ficus Opuntia. Je pense qu'on va le réhabiliter facilement.
Yann Cochard, vous êtes le créateur et webmaster du cactus francophone. Vous êtes en duplex des studios de France Bleu à Clermont-Ferrand. Alors c'est un site consacré justement à l'univers des plantes grasses et des succulentes. Hein. Vous avez un forum de discussion pour les questions les plus diverses sur les cactus et ces plantes succulentes. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs qu'une plante succulente ? C'est pas une plante qui se mange ?
Alors non, c'est pas le terme succulent au sens comestible. C'est le terme succulent au sens qu'elle stocke sous forme de suc, d'où le nom succulente, des réserves pour être capable de résister à la sécheresse et aux conditions difficiles dans lesquelles elles vivent.
Donc ce sont des plantes vraiment adaptées aux milieux les plus arides ?
Oui, 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 on en trouve dans beaucoup de milieux, aussi bien les plus arides que les plus humides, comme des forêts tropicales. Mais dans les milieux les plus arides, comme les déserts, hein, comme on a vu tout à l'heure, on a entendu Lucky Luke et les Dalton.
Oui.
Elles ont développé donc des stratégies pour résister à la sécheresse très très forte qu'il y a là-bas et l'eau qui arrive de manière ponctuelle. Mais très rare.
Ouais. Donc ça veut dire que ces plantes sont capables de stocker le peu d'eau justement qui leur est proposé.
Oui, oui, oui. Donc elles ont des racines qui restent en surface et qui absorbent l'eau quand elles tombent. Et elles la stockent dans leur forme. Et leurs formes en général sont cylindriques ou sphériques, ce qui est le volume le plus adapté pour stocker une quantité donnée de n'importe quoi, hein, ici de l'eau. Alors que les plantes qui ont des feuilles qui sont très fines et très grandes, elles ont beaucoup d'évaporation par rapport quand il fait chaud. Les cactus, eux, ont une forme trapue. Ils n'ont pas de feuilles pour éviter l'évaporation et ils ont même des épines pour se protéger du soleil.
Ouais. Voilà. Fabrice Fenouillère, on parle donc de plantes succulentes ou de plantes grasses d'ailleurs, on parle de la même chose ou pas?
Oui, c'est des mots qui ont évolué au fur et à mesure.
Ouais. Et ce terme de gras, alors c'est quoi exactement dans la plante grasse?
Ça pourrait être les mucilages par exemple, hein, c'est-à-dire un petit peu cette eau qu'on stocke. Et parfois on se dit, tiens, je suis dans le désert, je suis un peu perdu, j'ai un cactus, je vais pouvoir l'ouvrir et boire comme une noix de coco. Et en réalité, c'est pas ça, hein, je réponds un peu à votre question. Il y a effectivement une pulpe, il faudrait avec un caillou pouvoir la malaxer, hein, et avec une petite paille pouvoir avoir un petit peu de liquide comme comme ça. Donc c'est surtout des tissus qui retiennent cette eau-là. Il y a du bois aussi dans les cactus.
Ah bon ?
Et quand vous aviez dit en début d'émission qu'effectivement qu'un cactus pouvait atteindre 20 mètres de hauteur, il faut qu'il se tienne bien
c'est
debout.
Sa structure, donc, qui est
et il y a du bois aussi dont on fait des meubles, dont on peut faire des charpentes du côté de l'Amérique du Sud. Oui, il y a aussi, selon la variété, on parlait avec Yann de globulaires, il y en a parfois moins, mais les colonnaires qui vont très haut, il y a du bois comme toutes les plantes.
Mais on peut parler d'un tronc de cactus ?
On pourrait parler d'une tige lignifiée.
Yann Cochard, pourquoi cet intérêt particulier pour ces cactus ? Vous êtes un vrai passionné, vous avez donc ce site qui fonctionne très très bien à l'échelle francophone. Qu'est-ce qui vous a plu dans ces plantes en particulier, alors vous ?
Je pense que c'est leur géométrie qui m'a plu au départ.
Ah oui.
Oui, j'ai une culture un peu scientifique de formation, donc les maths, la géométrie, ça m'a toujours plu.
D'accord.
Et puis on trouve des formes qui sont absolument fantastiques et qui sortent de l'ordinaire. Quand je parle de l'ordinaire, c'est ce qu'on voit dans la vie de tous les jours chez nous, les plantes classiques dont on a l'habitude. Et puis elles nous récompensent. Elles ont des floraisons qui sont absolument étonnantes. Beaucoup disent que après les orchidées, c'est les plus belles. Bon, bien sûr, c'est une question de goût. Chacun a son avis. Mais elles sont absolument détonnantes par rapport à la plante elle-même. Boule. Oui.
C'est vrai. Et on voit autant, pardon de vous couper, mais d'amateurs et de passionnés autant pour les orchidées que pour les cactus.
Oui, énormément d'événements, aussi bien pour les orchidées que pour les cactus, un peu partout en France, de manière régulière, où des passionnés se retrouvent, apportent leurs plantes, leurs boutures. Ce sont des plantes qui se multiplient très facilement, et donc on peut faire plaisir aux autres passionnés et échanger très facilement.
Fabrice Fenouillère, on parle d'ailleurs de formes monstrueuses pour certains cactus. Ça fait partie justement des structures
très
totalement singulières et hors du commun.
Oui, et puis pour rebondir sur ce que disait Yann, ce qui est aussi fascinant, et pour ma part qui m'a amené à m'intéresser à ce type de végétal, c'est l'envie de s'en sortir de ces plantes. C'est-à-dire la nature les a fait naître dans les endroits les plus complexes, alors jusqu'à 4000 mètres d'altitude. On se dit toujours le désert, c'est 4000 mètres d'altitude. Il y en a qui ont les pieds dans la neige. Il y a des cactus au Canada de type Opuntia, on en parlait, une variété de figuier de Barbarie qui a régulièrement les pieds dans la neige, ça ne le gêne pas trop, il peut descendre à moins 30, il s'en sort. Et donc ce qui me fascine, c'est ces aventuriers de l'extrême, ces stratégies, Yann en parlait, fabuleuses, des racines qui peuvent descendre très profondes, mais on en parlait, superficielles également, des racines en forme de bonbonnes, des stomates qui permettent d'échanger les gaz, qui sont beaucoup moins nombreux que sur les autres plantes, qui s'ouvrent la nuit pour pas perdre trop d'eau et pas la journée comme les autres le font, une tige en accordéon pour absorber de l'eau comme un accordéon s'ouvrirait en période un peu plus compliquée. Rentrer le ventre, resserrer ses côtes et s'en sortir malgré tout, même s'il n'y a plus une goutte d'eau en milieu aride notamment pendant longtemps. Ces feuilles qui sont devenues des épines, atrophiées finalement, végétalement on est encore dans cela. Ces poils qui capturent l'humidité pour les faire rentrer un petit peu à travers d'autres pores dans la tige, ça c'est fabuleux, absolument fabuleux. Et pour répondre à votre question...
Qui était ?
À vous de me le dire.
Ah ben je ne sais plus. Vous voulez répondre à une question que je ne vous ai même pas posée. Bon, donc, mais c'est pas grave. En tout cas, on a Corentin qui, lui, a une question à nous poser du lycée Eugène Hénave. Bonjour d'abord, Corentin.
Bonjour.
On t'écoute. À toi.
Bien, j'aimerais savoir quelle est la durée de vie du cactus, s'il vous plaît.
Alors, Yann Cochard, est-ce que vous avez une réponse pour Corentin ? Ça doit dépendre évidemment de la variété, j'imagine.
Oui, bien sûr, il y a des cactus qui vivent des centaines ou des centaines d'années. Même certains mettent plusieurs dizaines d'années avant de pouvoir même fleurir, donc c'est-à-dire devenir adulte et être capable de se reproduire. Les cactus, à l'espérance de vie la plus courte, on dit qu'il y a certains petits cierges qui vivent 10, 15, 20 ans, comme l'Artriocereus mirabilis, qui a une fleur blanche extraordinaire et très parfumée la nuit, qui reste très petit. Et d'autres qui vivent des centaines d'années. Ceux qui font, comme vous disiez tout à l'heure, 20 mètres de haut, eux, ils ont sans doute des centaines d'années.
Alors, ils sont où ces doyens des cactus, en particulier au Mexique ? C'est là qu'on les trouve, ou pas ?
Oui, le Mexique est un des pays qui a le plus de cactus, en tout cas les plus connus. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, celui qu'on appelle le cactus de belle-mère, l'Echinocactus grisonii, cette boule jaune magnifique qui est presque disparu dans l'habitat. Il n'y a que quelques centaines d'individus qui restent, alors qu'il y en a des millions en culture de partout. Celui-ci, il met bien 30 à 40 ans avant de fleurir.
Ah oui, donc il faut être très patient, effectivement, pour voir les premières fleurs. Daphné, une question également pour toi du lycée Eugène Hénaff.
Oui,
on t'écoute.
Je voulais savoir si les cactus ont des vertus médicinales et ou cosmétiques.
Alors, qui veut répondre? Fabrice Fenouillère.
Alors, c'est une excellente question. Et puis ça, c'est très intéressant que de se rendre compte qu'en fonction de sa culture, on lui accorde d'autres importances à ce cactus. Et pour répondre directement, pour la cosmétique par exemple, une des huiles les plus chères au monde aujourd'hui, et je ne fais pas forcément de focus sur l'Opuntia, mais j'y reviens parce que là, c'est lui qui est de nouveau à l'honneur, eh bien le figuier de Barbarie. Et s'il y a des auditeurs en ce moment qui en ont dans un jardin, qu'ils le regardent, ou en bord de route s'ils sont au bord de la Méditerranée, bah ce figuier de Barbarie, justement, quand on prend ses pépins, non pas les fruits, mais les pépins des fruits, Donc il faut déjà récolter une tonne de fruits. Ça nous donnera 30 kilos de pépins, et lorsqu'on presse ces pépins, ça nous donne l'huile cosmétique, anti-vieillissement, dit-on, la plus chère au monde, à 1000 euros le litre parfois,
c'est
pour les plus recherchés, du côté de la Tunisie et du Maroc, qui sont les producteurs les plus intéressants.
Mais vous avez des trésors en Corse alors, vous pourriez l'utiliser, ce figuier de Barbarie, pour en faire de l'huile.
La main d'œuvre est complexe, mais bien sûr, bien sûr, en tout cas, par ailleurs, et on aura peut-être l'occasion d'en parler, on va jusqu'à de l'eau, on le disait, qui est rendue potable, et puis un steak de bœuf, l'équivalent d'une cladote, d'une raquette qu'on mangerait aussi, on pourra en reparler.
On peut rendre de l'eau potable avec des cactus?
Ça, c'est quelque chose de tout à fait fascinant, qui a à peu près 10 ans, en termes de recherche, ça se passe du côté du Chili. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a un principe de coagulation qui se fait avec les bactéries de l'eau lorsqu'elle n'est pas potable, et notamment le zinc et le cuivre lorsqu'on plonge du mucilage, on en parlait, cette substance un petit peu visqueuse à l'intérieur de ces raquettes de figuier de Barbarie, eh bien, elle coagule ces bactéries, elle les fait tomber au fond d'un récipient, si on a choisi par exemple cette expérience, et ça rend l'eau potable à 98%, bien souvent. Ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur ce sujet-là du côté de l'Amérique du Sud.
Ouais.
Donc c'est un vrai espoir pour les 2 milliards de personnes quasiment qui n'ont pas accès à de l'eau potable régulièrement à partir de cette plante qu'on arrache par ailleurs sous nos contrées.
Alors justement, on part au Mexique, écoutez un reportage qui avait été diffusé sur iTélé en septembre 2015, où justement pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien les cactus ont peut-être un rôle à jouer. Écoutez.
Au loin sur son tracteur, Juan Carlos fanfaronne. Depuis 5 ans, ce Mexicain en est persuadé. Ces plantes cactus qui s'étendent à perte de vue sont l'avenir des carburants et ils vont lui rapporter gros. Coupés à la va-vite, jetés par dizaines au fond d'une benne agricole, les cactus sont transformés quelques mètres plus loin en une masse liquide et verdâtre, avant de finir dans les réservoirs de nos voitures.
Ce n'est pas cher à produire et on n'a pas à surexploiter les ressources du sous-sol. C'est une énergie verte qui ne pollue pas. En plus, pour nous, pas besoin de l'importer, on peut en produire directement au Mexique.
Autre avantage, les cactus ont un rendement bien meilleur que les bioéthanols à base de maïs, de betteraves ou de colza, et ne participe pas à l'inflation des denrées alimentaires. Le projet est encore expérimental, mais il a reçu le soutien du gouvernement mexicain en première ligne face au dérèglement climatique.
Dans le nord et le centre du Mexique, il y aura beaucoup plus de sécheresse, et il y aura donc moins d'eau. Mais dans d'autres parties, comme sur les côtes, on aura beaucoup plus de pluie, de fortes tempêtes et de plus en plus de cyclones.
Des cactus qui pourraient même aider le Mexique à réaliser l'une de ses ambitieuses promesses, réduire de 22% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 20 ans.
Voilà, une proposition, en tout cas une idée du Mexique pour utiliser les cactus comme nouveau carburant. Fabrice Fenouillère, idée intéressante. D'autres usages dans l'imaginaire collectif?
Ce qui serait absolument génial, c'est de suivre les études qui sont faites effectivement et de se dire qu'un hectare planté de cactus, ça se passe du côté de l'Amérique du Sud, permettent par exemple en biomasse d'alimenter 40 maisons. Avec des coûts inférieurs à ce que les énergies fossiles permettent aujourd'hui, et parallèlement un second hectare qu'on aurait à côté permettrait de nourrir par exemple 100 vaches avec le gîte et le couvert, parce que pour le coup il y a l'eau et à manger sur ces cactus pendant un an de sécheresse. Donc on est vraiment sur une des solutions très intéressantes pour la planète, avec des plantes qu'on regarde pas trop d'un bon œil parfois.
Ouais. Yann Cochard, justement, il y a beaucoup d'idées à puiser dans ces plantes.
Alors, il y a un certain nombre de personnes qui ont essayé de creuser des sujets comme la production de parfums, par exemple.
Mm-hmm.
Parce que quand j'habitais à Grasse, j'étais bien placé pour en parler.
Bien sûr.
Et la difficulté, c'est d'avoir suffisamment de fleurs pour être capable de produire en masse des huiles essentielles ou des parfums. Autrement, il y a des utilisations qui sont faites, on a vu tout à l'heure, pour la construction grâce aux charpentes, mais aussi pour des tissus. Ou bien, alors là c'est plus avec des plantes grasses autres que les cactus, mais qui sont souvent confondues avec, et pour l'isolation aussi.
D'accord. Yann Cochard, il y a une question de Hélène qui nous rejoint sur franceinter.fr, qui aimerait savoir si les cactus se boutureraient, et si oui, comment. Vous avez des conseils à lui donner pour ça?
Oui, tout à fait. Les cactus se bouturent très très bien. La grosse différence par rapport aux plantes vertes, quand on bouture une plante verte, on la coupe, on la met dans un verre d'eau et on attend qu'elle fasse des racines. Avec le cactus, c'est l'opposé. On coupe, on laisse sécher jusqu'à ce qu'il se cicatrise. Parfois, il réduit un peu en taille. Et ensuite, on le pose sur le substrat et on le laisse faire ses racines tranquilles.
Et là, il faut patienter combien de temps à peu près avant d'avoir de bons résultats ?
Alors, une petite plante, une bouture qui fait la taille d'une noix, par exemple, ça va prendre 2-3 semaines. Une bouture qui est plus grosse, qui fait par exemple la taille d'une jambe, là, ça peut prendre quelques mois ou quelques années.
En tout cas, on peut avoir plein de conseils hein, justement sur votre forum, puisque beaucoup vous posent des questions en ce sens sur Cactus Pro. Hein, c'est l'adresse pour retrouver donc tous les amateurs de cactus. Les formes monstrueuses, Fabrice Fenouillère, on peut encore en dire un petit mot.
Et oui, d'autant que j'avais évincé la question en partant sur.
C'est ça, on l'a retrouvée en fait.
Et c'est ça. Et je me suis emballé en expliquant pourquoi elles étaient des championnes de la survie et qu'elles m'intéressaient. Oui, ça c'est absolument fabuleux. Et on le voit bien en parc Galet, encore chez nous, quand les gens s'approchent du jardin, on a beaucoup de cactus monstrueux. Hein, ce mot qui est intéressant. Alors si on veut être un peu plus technique, et ceux qui écoutent pourraient être intéressés par les fasciations et les cristations.
Qu'est-ce que c'est alors exactement ?
Et alors c'est un cactus cristé ou fascié, celui qui fait une crête ou un faisceau. Vous prenez le méristème apical, hein, c'est-à-dire la zone qui va pousser normalement vers le haut quand vous êtes un cierge hein, et que vous élevez vers les cieux.
Le méristème apical.
Méristème.
C'est très joli.
Hein, avec un M, le méristème apical. Et en réalité, ce sont des cellules femelles qui se développent et qui sont censées être, je dirais, porter la tige vers le haut. Et là, on ne sait pas vraiment pourquoi. On sait que c'est génétique. On sait qu'il peut y avoir des apports extérieurs, notamment environnementaux, qui vont contrarier la plante. Mais au lieu de pousser en hauteur, elle va pousser de manière bilatérale. Donc au lieu d'avoir une pointe, vous allez avoir une crête, vous allez avoir un croissant. Et ça va donner des sculptures végétales absolument fabuleuses qui font de la photosynthèse de la même manière, voire davantage, puisque la tige est plus élargie, mais surtout qui donnent des formes qu'on ne peut pas oublier quand on les voit, qui donnent envie de s'en approcher, de les comprendre. Ça fait un peu moins de fleurs, mais ce n'est absolument pas un végétal malade. Il y en a quelques-uns qui le font et c'est absolument génial de les rencontrer.
Quel est votre cactus le plus monstrueux alors en Corse ?
De la collection que nous avons, c'est un Peruvianus, un peu joli, qui mesure aujourd'hui un peu plus de 2 mètres et qui est bien bien pris en photo par les visiteurs.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre cette discussion avec les messages des auditeurs ainsi que ceux du lycée Eugène Hénaff.
Sa tête rentrée, resserrée dans tes épaules. Tu n'aimes rien montrer, là-bas au fond tu t'isoles. Il y a ces deux plis que l'on voit entre tes yeux. Ces mêmes traits d'ennui, beaucoup trop sérieux. Jamais su danser, t'as jamais su glisser. T'as jamais pu, jamais su.
et jamais su danser. C'est Ours à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Voilà, dossier cactus cet après-midi avec Fabrice Fenouillère du Parc Galéa en Corse et Yann Cochard qui est créateur du site Cactus Pro. Et vos questions, celles également de nos amis lycéens. Annelise est avec nous pour une prochaine question. Bonjour.
Bonjour.
On t'écoute.
J'aimerais savoir si les cactus sont comestibles.
Alors, qui veut répondre ? Yann Cochard, par exemple ?
Oui, 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 tout à fait. Tous les cactus sont comestibles.
Ah, tous ?
Et certains, oui, tous. Aucun n'est toxique. Par contre, certains n'ont aucun intérêt à être mangés. Ceux qui ont le plus d'intérêt, ce sont, par exemple, l'opacia ficus indica dont a parlé Fabrice tout à l'heure. Ouais. On connaît bien ses fruits, la figue de Barbarie, mais on peut aussi manger les raquettes. Ce que les gens voient un peu comme des feuilles, mais ce sont en fait des tiges qui ont changé de forme. Quand elles sont toutes jeunes, on enlève toutes les glochides, c'est-à-dire les petites épines, on les coupe en lamelles et on les utilise comme des haricots verts.
Ah bon ? Et ça a quel goût alors ?
Et bien en fait, c'est un goût un peu de haricots verts. C'est un peu différent, mais c'est un goût de végétal.
Bon, Fabrice Fenouillère, vous j'ai testé.
Alors, oui, c'est un peu acide. Alors pour ma part, on n'a pas tous les mêmes papilles. Ouais. Moi, ce que j'y trouve, effectivement, on est vraiment sur un peu la consistance du haricot vert. C'est surtout l'asperge, moi. Un petit peu d'acidité, goût d'asperge. Et c'est extrêmement gluant. Par contre, donc d'accord. Ça rebute pas mal le monde.
Bon, Annelise, est-ce que ça t'intéresserait de te...
J'aimerais bien.
Mettre en cuisine pour nous cocter un peu de cactus, non?
Pourquoi pas?
Bon, il faut faire attention, en tout cas, quand on va au parc, hein, de pas découper tout ce qu'on découvre.
Il y en a quelques-uns qui sont prévus pour ça.
C'est ça.
Avec des assiettes pas loin.
Extrait d'un guide de survie, comment découper un cactus justement sans se blesser. Écoutez ce reportage.
T'aimes la bouffe mexicaine ?
À ce stade, j'aime tout.
Tu connais le nopal ?
Le quoi ?
Le nopal. T'as jamais goûté ça dans un resto Tex-Mex ?
Non.
Mais c'est du cactus. Il y en a partout autour de toi. Tu vois ces petites plantes qui ressemblent à des raquettes de ping-pong ?
Ce truc-là, par exemple ?
Tout à fait. Ça sera à ton menu du soir. Alors sois bien prudent en les cueillant, parce que les épines sont assez dures pour transpercer tes gants comme si t'en avais pas. Ça serait ballot, pas vrai? Utilise ton couteau. Enlève les épines sur une zone suffisamment grande pour tenir la plante à deux doigts, puis tranche la base du cactus. Balance-la dans ta poêle. Et gratte consciencieusement les épines avec le dos de ta lame, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une seule. Ce cactus a un peu le goût du poivron, et ça se cuisine de la même façon.
Moi qui aime pas le poivron. Allez, je range tout ça et je repars.
Voilà, si jamais vous vous perdez un jour dans le désert mexicain, guide de survie, quelques conseils pour consommer du cactus, Fabrice Fenouillère. Alors, l'étymologie du mot est intéressante aussi, hein.
Eh oui, je trouve que c'est très chouette quand on revient à la base des choses. Et là, on est avec Christophe Colomb. Clairement, on est à la fin du XVe siècle, au profit d'Isabelle de Castille et puis de Ferdinand II d'Aragon. Il va ramener depuis les Antilles un mélocactus, dit-on, et qui est pour la première fois une sorte de boule piquante, intrigante, qu'on va découvrir en Europe. Et il va falloir un peu plus d'un siècle et demi, malgré tout, hein, pour qu'on lui accole le nom de cactos, hein, ouais, qui représentait à l'époque le chardon. C'était la boule piquante qu'on connaissait sous nos latitudes, hein, qui peut être assimilable à celle qu'on avait, bien plus grosse évidemment pour le mélocactus. Mmh. Et donc on a cette étymologie qui revient avec le suédois naturaliste qu'on connaît bien et qu'on entend beaucoup dans vos émissions. On y revient, Carl von Linné, qui officialise ce nom de chardon cactos pour les cactus.
Ouais. Et donc la classification, elle est bien établie là d'ailleurs aujourd'hui. C'est lui qui a commencé, Carl von Linné,
notamment, elle est très complexe. Hein. Il y a 2500, certains disent 3000, hein, effectivement, espèces. Peut-être que Yann a des précisions sur cela. Et c'est surtout très intéressant de savoir que c'est l'arrêt qui va différencier les cactus des autres plantes grasses. Hein. Un moment très précis sur son corps qui va dire c'est un cactus et c'est pas une forbe ou c'est pas une agave. Ouais. Un élément très, très spécial.
Ouais. Yann Cochard, donc c'est comme ça vraiment qu'on distingue le cactus d'une autre plante qui pourrait lui ressembler fortement.
Oui, tout à fait. Les cactus sont une famille qui est apparue assez récemment, en fait après la séparation des continents, parce qu'à une exception citée par Fabrice tout à l'heure à Madagascar, tous les cactus sont originaires des Amériques. absolument tous. Donc ça veut dire que c'est une famille qui est apparue après cette séparation des continents. Et par contre, on trouve des plantes qui ont vraiment la même forme en Afrique et au Mexique. Par exemple, des petites boules qui ressemblent à des oursins, l'Astrophytum asterias, et en Afrique, une forbe, le Forbia obesa. Si on les regarde d'un œil distrait, on pourrait penser que c'est la même chose. Alors que finalement, le Forbia n'a pas ces fameuses aréoles. C'est les aréoles d'où viennent toutes ces épines, qui seraient des feuilles, des vestiges de feuilles qui se seraient transformées ou des écailles de boutons qui seraient durcies. Et que les cactus sont la seule famille de plantes à les avoir.
Fabrice Nouillère.
Oui, c'est ça, l'aréole. En fait, si vous regardez de près, si vous avez des plantes grasses dans votre jardin ou si vous en voyez, c'est effectivement ce petit coussinet. C'est un petit coussinet sur l'épiderme, depuis lesquels, comme le disait Yann, partent les épines, les feuilles d'autrefois, si elles ont été modifiées, depuis lesquelles vont naître les fleurs également. Donc ces petits coussinets sur l'épiderme, depuis lesquels partent, ce sont vraiment les seules
plantes. C'est la signature.
Oui, qu'ils les ont sur la planète végétale.
Ouais. Lina demande, quel type de cactus peut-on avoir dans un appartement peu ensoleillé? J'ai l'impression d'être chez un labraton cet après-midi. Vous voulez répondre, Yann Cochard?
Oui, alors malheureusement, il y en a peu et ce sera uniquement les cactus qui viennent des forêts tropicales, ceux qui vivent sous la canopée, donc dans les arbres, comme les épiphyllums qui font des fleurs magnifiques, les ripsalis. Par contre, les cactus plus typiques, ceux qui viennent du Mexique, eux ont besoin d'énormément de lumière. Et une fenêtre au sud pourra à la limite le faire s'il est collé à la fenêtre, mais c'est même pas gagné.
Oui, donc faut vraiment du soleil au maximum, toujours.
Oui, c'est une des quatre règles cardinales de la culture des cactus. La luminosité, la lumière, il en faut énormément.
Ouais, au niveau de l'arrosage, demande Pierre, toujours sur franceinter.fr, comment on s'occupe des cactus en règle générale quand on en a en appartement par exemple?
Alors, il y a quatre règles primordiales, donc on vient de parler de la lumière. La deuxième, c'est l'arrosage. Si on veut que les plantes poussent, il faut les arroser. C'est pareil pour les cactus. Par contre, il faut les arroser quand les conditions sont propices, quand il fait chaud. On les arrose beaucoup et on s'assure que l'eau puisse partir rapidement. Donc ça veut dire qu'il faut que le substrat, la terre dans laquelle on les plante, laisse passer l'eau très facilement et qu'il n'y ait pas de soucoupe dessous, bien sûr.
Donc on fait quoi on les plonge dans l'eau pendant un certain temps pour humidifier vraiment les racines?
Oui, vous pouvez les laisser plonger dans l'eau pendant une demi-heure, une heure, et puis ensuite les laisser bien ressuyer. Ou alors vous mettez de l'eau tout simplement comme les plantes vertes sur le dessus, en vous assurant que vous en mettez pas trop pour qu'elle puisse sécher rapidement. Alors, si vous en mettez beaucoup, il faut le faire quand il fait très chaud, comme ça elle va s'évaporer rapidement.
Christina demande, j'ai un cactus magnifique qui fait des fleurs fuchsia de décembre à fin février. Quand faut-il le rempoter? Alors, toujours les conseils de Yann Cochard.
Oui, alors, si vous le rempotez pendant qu'il est en floraison, éventuellement, vous pouvez perdre ses fleurs ou les boutons. Attendez qu'il ne soit plus en train de fleurir et vous serez plus tranquille.
Fabrice Nouillère.
Oui, non, concernant les fleurs, ce qui est remarquable, nous, on se balade à Galéa, par exemple, la nuit, et on voit de grandes fleurs blanches. Parce qu'effectivement, les cactus, pour leur reproduction, le cycle classique du jeu avec les insectes, pour ceux qui sont diurnes, les fleurs très colorées dont parlait votre auditrice, ça se passe le jour, mais les grandes fleurs blanches que font les cactés la nuit, qui sont généralement des fleurs qui sentent beaucoup plus fort que celles de la journée, bien sont à l'adresse des chauves-souris. Et là, c'est intéressant de voir qu'il y a de grands phares qui naissent à un moment donné où parfois ça s'endort par ailleurs dans ces milieux-là.
Les effets psychotropes des cactus, justement, peut-être pour certains qui aiment se balader la nuit, en tout cas au Mexique, on recherche souvent la plante des dieux et là aussi c'est un reportage que je vous propose d'écouter.
C'est un voyage très particulier que ce groupe d'amis a décidé d'entreprendre. Un voyage à travers des montagnes escarpées et des plaines arides. Plusieurs heures de voiture et de marche pour se retrouver ici, dans le désert du Wirikuta, à perte de vue, des paysages à couper le souffle. Et au milieu des ronces, chacun en quête d'une plante très spéciale. Cette plante, c'est le peyote, un cactus au pouvoir hallucinogène.
C'est quelque chose de très mystique. Les gens d'ici l'utilisaient pour faire un voyage avec leur dieu.
Depuis des siècles, les Indiens Huichol viennent en pèlerinage dans cette plaine où, selon eux, le monde a été créé. Le peyote, une plante sacrée dans leur mythologie qui leur permet d'entrer en contact avec Tatawari, le dieu du feu, et Tayopa, le dieu soleil. Les touristes attendent de lui une expérience plus personnelle.
C'est un voyage intérieur. Quand je vais avoir terminé de le manger, je crois que je vais commencer à réfléchir. Je vais penser plus fort, je vais partir. Oui, je vais partir.
Voilà, elle a l'air bien partie déjà avec cette plante des dieux mexicaine, Fabrice Fenouillère. D'ailleurs, la cueillette est interdite hein, pour le peyote, c'est ça hein?
Oui, sauf pour les Indiens concernés par le reportage, les Huichols qui ont encore depuis 1970, à cause de la mescaline. Hein. Ouais. C'est ça qu'on va chercher dans ces hallucinations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que là, on était au Mexique, clairement. Mais que si on fait de grands pas, hein, quelques kilomètres, et qu'on se retrouve du côté des Andes centrales, je pense à la Bolivie, au Pérou, au Chili ou du côté de l'Équateur, on a également des peuples qui sont allés chercher le second, finalement, cactus qui permet de rentrer en communication avec ces dieux. Je pense au San Pedro, pour ceux qui le connaîtraient, mais qu'on peut aussi appeler l'Echinopsis, hein, Pachanoï. Et là, on est sur plutôt un cactus colonnaire, alors que celui du Mexique dont on vient parler était plutôt petit, en boule et au sol. Et alors, on est chaman, on part en montagne jusqu'à 2800 mètres, on demande pardon avant de le couper, on met un peu de terre sur la cicatrice qu'on a provoquée, on l'arrose d'eau, on l'arrose d'huile parfumée, on le récupère, on en fait une boisson, et c'est avec ça qu'on va pouvoir communiquer avec ces dieux ou se soigner, puisque on a encore des chamans évidemment de communication, mais guérisseurs. Et donc on est dans quelque chose de très très traditionnel qui existe encore et qui permet non pas d'avoir forcément des hallucinations, dit-on, hein, mais surtout d'avoir des sens décuplés, la vue, l'odorat, l'empathie, la télépathie aussi avec les mondes, le monde naturel qui nous entoure.
En tous les cas, espèce protégée, interdiction de les cueillir donc au Mexique. Yann Cochard, il y a une vraie menace qui plane sur certaines espèces de cactus aujourd'hui.
Il y a des cactus qui sont menacés, effectivement, mais plus par le développement immobilier, par exemple autour de Mexico, qui est une ville qui s'étend énormément, ou bien par la culture, tout simplement. Les gens qui sont dans ces pays-là ont besoin de cultiver des champs pour reproduire de la nourriture pour eux, pour leur bétail, et c'est la principale menace qui pèse sur les cactus.
Et les collectionneurs, est-ce que ça peut représenter aussi une menace ou pas?
Non, je n'y crois pas, parce que les plantes qui viennent de l'habitat, moi j'en ai pas, parce qu'elles sont beaucoup plus fragiles, elles sont pas très intéressantes, elles sont souvent abîmées, alors que les plantes qu'on a multipliées nous-mêmes, par bouture ou par semis, en plus il y a une satisfaction qui est bien plus grande, et elles sont plus adaptées à notre culture. Donc non, les collectionneurs, pour moi, ne menacent pas les plantes dans l'habitat.
Alain demande en quoi les épines protègent les cactus du soleil, Fabrice Fenouillère.
Oui, alors le cactus fait tout hein, pour s'en sortir dans un endroit, pour ceux qui vivent au soleil. On a vu qu'il y en avait qui vivaient dans les forêts humides, même si c'est 7-8% vraisemblablement. Mmh. Oui, eh bien effectivement, quand le cactus, à un moment donné, a ses épines autour de lui, ça lui fait une protection. Et quand les côtes hein, qu'on voit sur le cactus et qu'il est en période où il n'a pas forcément beaucoup d'eau à l'intérieur sont assez rapprochées, et on pourrait voir des photos de cactus qui ne sont pas toujours ces épines acérées, hein, qui sont plates, qui sont comme de petits parasols plaqués sur lui, eh bien effectivement déjà ça protège du soleil très efficacement les côtes elles-mêmes. Hein, ces côtes de chacun de ces cactus sont autant de petits parasols, puisque finalement ça coupe la lumière directe du soleil qui à l'intérieur de ces côtes est plutôt réserve plutôt des zones ombragées. Et puis sur l'épiderme, il y a une cuticule, il y a une sorte de crème solaire du végétal, avec cette cuticule beaucoup plus dure d'ailleurs que sur les autres végétaux, qui fait tout pour justement ne pas trop être brûlé, certains même s'enterrent. On pense aux animaux qui s'enterrent dans les pays les plus complexes, l'oryctérope par exemple, ou la gerbille, eh bien, le cactus peut aussi aller presque jusqu'à s'enterrer, en gardant un peu pour sa photosynthèse, pour se prémunir de cette chaleur dans laquelle il est plongé. Mais il fait tout pour s'en sortir.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Yann Cochard, je signale donc votre site internet pour tous les amateurs qui auraient des questions, puisque vous avez un forum pour répondre justement à ces questions, cactuspro.com. Et puis Fabrice Fenouillère, le parc Galéa encore, c'est au sud de Bastia, avec aussi une série de conférences scientifiques. Prochaine invitée d'ailleurs, ce sera Vinciane Després, c'est ça?
Alors c'est après-demain, on l'accueille demain, retourne encore ce soir, et c'est Vinciane Després sur l'intelligence animale. Et c'est vrai que toutes les semaines, durant 25 conférences, donc c'est un cycle assez dynamique, voilà, on accueille des scientifiques à chaque fois.
Parcgalea.com, et merci aux équipes de France Bleu Pays d'Auvergne pour ce duplex avec Yann Cochard. Merci beaucoup à tous les deux, et merci aux élèves du lycée Eugène Hénaff qui étaient avec nous. 14h43 sur France Inter.